Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Vous êtes en train d'écouter la 4e émission de Claude et l'Info, l'émission qui réchauffe vos oreilles et stimule vos neurones. Je suis Cyprien Mialache.
Et moi je suis Ophélie Defoy, tous les deux des élèves de seconde. Comment vas-tu Cyprien ?
Je vais très bien. Dis-moi Ophélie, qu'avons-nous au programme aujourd'hui ?
Nous évoquerons d'abord sur la commémoration de la journée du souvenir avec une interview exceptionnelle de Monsieur Miraillet, ambassadeur de France. Et puisque la période est au sommet et autres instances multilatérales, nous accueillerons Odeline Ferrand, conseillère de presse de l'ambassade de la France, pour parler du sommet de la francophonie. Puis la COP27 avec Yasmine Gaffari, et nous finirons avec Yasmine Davisson qui nous parlera de voyage des élèves de la spécialité CAV au Festival du film de Sarlat.
Mais à l'instant, place aux nouvelles du lycée.
Le mercredi 14 décembre, de 15h30 à 18h, nous vous convions au marché de Noël qui se tiendra à l'auditorium. La participation des parents est la bienvenue.
Du 21 novembre au 2 décembre, soyons tous ensemble pour la Banque alimentaire d'Ottawa. Les élèves de CM2 et des élèves du secondaire vous invitent à donner des denrées alimentaires. Dès lundi 21 novembre, ils tiendront des permanences de 8h05 à 8h30, puis de 15h30 à 16h10, tous les jours, dans le hall du lycée pour récupérer vos dons.
En ce qui concerne les plus grands, c'est-à-dire les secondes et les premières, du 28 novembre au 2 décembre, ce sera la semaine de l'orientation avec des métiers proposés. Consultez les affichages dans les couloirs et au besoin, n'hésitez pas à solliciter Élodie Bouvier, notre conseillère d'orientation.
Ces ateliers, Ophélie, seront au CDI et plusieurs thèmes seront abordés. Ce sera une semaine cruciale pour celles et ceux qui se questionneront sur les métiers de demain.
À Claude et l'Info, on parle d'avenir, mais sans oublier le passé, comme la commémoration de la journée du souvenir le 11 novembre dernier. Et Sarah va tout nous dire sur le sujet.
Bonjour Sarah. La journée du souvenir a vu la participation d'une délégation du lycée Claudel à la cérémonie officielle. C'était le 11 novembre dernier, devant le Parlement à Ottawa. Tu as été à cette occasion nos yeux et nos oreilles. Tu as même pu poser quelques questions à Monsieur Miraillet, ambassadeur de France, présent à cette occasion.
Oui, effectivement, c'était une belle commémoration. J'ai eu la chance de poser ces questions suivantes. Que signifie pour vous cette journée du 11 novembre, notamment dans le cadre des relations France-Canada ?
Bien, c'est toujours un moment important parce que pour le Canada, la guerre de 1914 est d'abord un sacrifice et c'est en même temps une naissance douloureuse, mais c'est la naissance de l'État moderne. La bataille de Vimy en est l'illustration parfaite, la fin du dominion britannique et la naissance d'un État appartenant au Commonwealth. Et c'est pour les Français le souvenir d'une bataille où une population très jeune et en fait très limitée a perdu une demi-génération d'hommes dans des combats d'une violence extrême. Et donc nous avons là une relation extrêmement puissante qui s'est développée après par les mêmes sacrifices à Dieppe en 1942. Je vous rappelle qu'on en célèbre l'anniversaire. Et surtout, les combats de la libération, mais également des choses que l'on connaît moins. C'est aussi une solidarité dans la guerre froide et également dans les combats qui ont eu lieu pendant la guerre de Corée.
Comment faire vivre cette mémoire auprès des prochaines générations alors que les acteurs et témoins de cet événement ne sont plus là ?
Eh bien justement, ce type de manifestations, de réunions qui sont pleines d'émotions en fait, sont là pour rappeler effectivement à ces jeunes générations que ces sacrifices ne sont pas intervenus pour rien, qu'ils appartiennent également à leur histoire, et que aujourd'hui l'actualité brûlante de l'Ukraine vous montre que des démocraties pour survivre doivent maintenir cet effort de défense. Et maintenir cet effort de défense, le souci de se dire que nous ne sommes pas seulement dans des situations confortables comme au Canada, mais qu'à tout moment quelque chose peut dérégler cette situation, le droit de faire ce que l'on veut, de dire ce que l'on pense, d'écrire ce que l'on pense, eh bien vous ne le faites que si certains sont prêts à vous défendre et sont prêts à aller jusqu'à la guerre ou au sacrifice final pour défendre ses vertus.
Quel message souhaitez-vous faire passer aux élèves concernant l'histoire du 11 novembre ?
Eh bien, que ceci vous incite à regarder ce qu'a été la plus grande boucherie du monde, la première opération de mondialisation, je serais tenté de dire, et de voir effectivement pour quelles raisons nous sommes entrés en guerre, ce qui sont probablement des raisons de bagarres économiques de l'époque, mais qui n'étaient pas, des raisons comme maintenant, comme on le voit sur l'Ukraine et l'agression russe, de velléité de mettre la main sur les démocraties ou de les empêcher ou de revenir sur des conquêtes territoriales. Les raisons de la guerre de 14 sont très nombreuses, mais elles sont pleines d'enseignements sur l'arrivée de la modernité, sur un certain nombre de choses, de dessins des frontières, d'erreurs qui ont été faites au moment de l'armistice. Et j'allais dire, ce qui est le plus important, c'est qu'après les deux conflits mondiaux, et pas uniquement la guerre de 14, nous sommes arrivés avec l'Allemagne à une réconciliation. Et c'est un modèle pour tous, c'est un modèle pour Israël et le peuple palestinien, c'est un modèle pour peut-être demain la relation entre l'Ukraine et la Russie, si jamais nous finissons ce conflit. La guerre de 14, l'armistice du 11 novembre, les suites, les erreurs commises dans la suite, sont des thèmes d'études, d'intérêt, à mon avis, profonds, qui vous disent beaucoup sur l'État moderne.
Merci beaucoup, Sarah, et merci à M. Mirayet d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Claudel Info.
M. Mirayet, si vous nous écoutez à l'antenne, nous espérons bien vous avoir bientôt dans notre studio pour poursuivre ces échanges et vous connaître davantage. De l'actualité locale, passons à présent à l'actualité internationale. Particulièrement riche ces derniers jours, avec pas moins de 5 sommets internationaux. Nous avons la chance d'accueillir en studio Audeline Ferrand, qui occupe le poste de conseillère presse au sein de l'ambassade de France, pour nous parler du 18e sommet de la francophonie qui s'est tenu le 19 et 20 novembre en Tunisie. Bonjour Madame Ferrand.
Bonjour.
La francophonie est une notion très vague pour beaucoup d'entre nous. Madame Ferrand, comment peut-on définir la francophonie ?
Alors la francophonie, la réunion qui a eu lieu à Djerba, comme vous le mentionniez en fin de semaine dernière, c'est la rencontre de l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, qui est une organisation qui regroupe 88 États et gouvernements autour du français et des valeurs partagées par le français. Parce que le français, c'est la cinquième langue du monde, la plus parlée dans le monde, et c'est le partage de certaines valeurs humanistes, et c'est pour ça qu'a été créée cette Organisation internationale de la francophonie, pour parler régulièrement et défendre ces valeurs humanistes entre pays qui pensent pareil.
Très intéressant. Quels sont les enjeux du présent sommet de la francophonie, dont le thème est « Connectivité dans la diversité » Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone.
Alors c'était un sommet particulièrement important, tout simplement déjà parce que ça faisait longtemps que les États membres de l'OIF ne s'étaient pas rencontrés, à cause de la pandémie notamment. Ça faisait 4 ans qu'il n'y avait pas eu de réunion de l'OIF, donc ça a été une remise à niveau. Et on a eu à l'ordre du jour des travaux du sommet des points essentiel pour l'avenir de l'Organisation internationale de la francophonie, puisqu'on a réélu sa secrétaire générale, Madame Louise Mushikawabo, et puis on a adopté un nouveau cadre stratégique pour la francophonie qui s'étend de 2023 à 2030, avec, comme vous le mentionnez, le développement à la fois d'outils du numérique et de culture en français.
Et c'est un thème qui somme d'ailleurs comme un défi.
C'est un vrai défi, puisque à l'heure actuelle, on voit le développement de contenus culturels accessibles souvent en anglais et mondialisés. Je pense qu'ici, autour de la table, vous regardez tous Netflix, voilà. Et il est très important d'avoir une défense de la francophonie dans tout ce qui est numérique. Donc à la fois dans les grandes instances, mais aussi dans l'accès aux contenus culturels en français.
D'accord. Et enfin, pourriez-vous nous dire comment la France et le Canada travaillent pour promouvoir la francophonie ? Et est-ce que les deux pays sont sur la même longueur d'onde concernant ce sujet ? Est-ce qu'ils coordonnent leur action ?
Alors la France et le Canada sont très impliqués, chacun, dans l'Organisation internationale de la francophonie. La preuve en est, c'est qu'il y a une participation à plus haut niveau, puisque côté français, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui a participé, et côté canadien, c'est le Premier ministre, Justin Trudeau. La France a particulièrement développé, notamment depuis ces dernières années avec le premier quinquennat de M. Macron, une stratégie forte et ambitieuse pour la francophonie, avec des projets à long terme, et notamment celui d'ouvrir l'année prochaine, au printemps 2023, une cité internationale de la francophonie à Villers-Cotterêts. Et donc ça, c'est un projet qui est développé aussi avec tous les pays membres de l'OIF et au premier lieu le Canada qui prend sa part et qui s'implique aussi.
Madame Ferrand, vous vous doutiez bien que nous allions vous poser des questions sur votre métier. Nous sommes curieux de savoir à quoi ressemble le quotidien d'une conseillère presse au sein d'une ambassade.
Alors, ce qui est magique, c'est qu'il n'y a pas de journée type. La seule chose qui va se répéter régulièrement, c'est que dans le rôle d'une conseillère presse, c'est évidemment de suivre ce qui se fait dans les médias. Donc ça commence par une revue de presse tous les matins qui est envoyée et transmise aux collègues de l'ambassade pour que chaque service soit bien au courant des nouveautés canadiennes dans tous les sujets qui les intéressent. Et puis après, une journée type, ça, c'est très variable, puisqu'on va suivre l'actualité aussi de notre ambassadeur. Donc suivre ses déplacements, s'assurer de ses relations presse, de sa communication sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça dépend vraiment de l'agenda de l'ambassadeur et donc plus globalement de la relation bilatérale.
D'accord. Et quelles sont vos préférences dans votre métier ? Ou si vous en avez, les éléments qui vous plaisent le moins?
Alors moi, ce que j'adore, c'est justement que c'est très varié. Il n'y a pas un seul jour où je fais la même chose. Je touche un peu à tous les sujets, tant la coopération scientifique universitaire que les grandes questions de la relation bilatérale, donc le stratégique, la défense, quelle est la position du Canada en matière de relations internationales, et puis les projets culturels, la francophonie. Donc ça, c'est pour moi le plus gros point positif. S'il devait y avoir un petit point négatif, parce qu'il y en a toujours, je dirais que c'est d'être toujours connecté, puisque comme on doit être tenu au courant, se tenir au courant en temps réel de ce qui se passe, on a peut-être un peu de mal à se déconnecter.
Je suis sûr que vous arrivez à gérer votre temps sur les réseaux. Merci pour votre temps, Madame Ferrand. On espère vous revoir dans notre studio.
Merci à vous.
Le sommet de la francophonie n'est pas le seul événement à portée internationale qui s'est déroulé ce mois-ci.
En effet, la COP27 s'est finie la semaine dernière. Yasmine Ghaffari, tu n'y étais pas, mais tu as suivi cela pour nous. Bonjour Yasmine.
Bonjour. Alors oui, avec 196 pays qui étaient à la conférence, avec un grand total de plus de 40 000 participants, cette conférence a eu lieu du 6 au 20 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, près de la mer Rouge. Cette conférence devait permettre de revoir les anciens accords et plus particulièrement parler de la situation du climat dans les pays du Sud, en Afrique surtout, qui subissent de plein de fouet le dérèglement climatique.
Et avec quel résultat, Yasmine ?
Eh bien, c'est un résultat bien maigre, Ophélie. L'accord final, adopté à la dernière minute par consensus, évoque une nouvelle fois la réduction des émissions des GES et l'aide aux pays vulnérables. La déclaration finale appelle, comme d'habitude, à une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre et réaffirmant l'objectif de contenir le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Cependant, le détail des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir n'a toutefois pas été précisé. Ces engagements, en admettant qu'ils soient intégralement tenus, mettraient au mieux le monde sur la trajectoire de plus de 2,4 degrés Celsius à la fin du siècle. Or, au rythme actuel des émissions, on est davantage sur celle d'une catastrophique d'environ plus de 2,8 degrés Celsius. Or, à près de 1,2 degrés Celsius de réchauffement actuellement, les impacts dramatiques du changement climatique se multiplient déjà. Bref, une fois de plus, la montagne a accouché d'une souris. Même le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a regretté le manque d'ambition sur la question des gaz à effet de serre en déclarant nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant, et c'est une question à laquelle cette COP n'a pas répondu.
C'est vrai.
Pas très réjouissant tout ça. Merci Yasmine Ghaffari.
De rien.
D'une Yasmine à une autre, pour ne pas confondre nos auditeurs, nous avons cette fois Yasmine Davisson, élève de terminale, qui a suivi les élèves de l'option CAV de terminale la semaine dernière au Festival du film de Sarlat. Bonjour Yasmine Davisson.
Bonjour Cyprien, bonjour Ophélie. Tout d'abord, est-ce que vous êtes des amateurs de films ?
Oui. Oui, oui.
Alors vous aurez adoré le Festival de films de Sarlat. Sarlat est un petit village français de Dordogne qui se trouve proche de Bordeaux. Ce festival a été créé en 1991 et il permet de mettre en avant des films francophones pour les lycéens.
Et est-ce qu'il y avait une thématique pour ce festival ?
Oui. Pour la 31e édition du festival, le réalisateur italien Federico Fellini a été mis à l'honneur. C'est un réalisateur qui a révolutionné l'univers du cinéma.
Comment s'est déroulé le festival ?
Eh bien, le festival se déroulait en deux lieux, le cinéma Rex et le centre culturel à Sarlat. Le centre culturel était plutôt réservé pour les lycéens. Le festival offrait deux programmes, un programme général pour le grand public et un programme pour les lycéens. Le programme des lycéens permettait aux élèves de découvrir le milieu du cinéma. Le festival offrait des ateliers centrés sur différents aspects du cinéma et les élèves de spécialité CAV ont pu tourner des courts-métrages avec l'aide de réalisateurs et de monteurs professionnels. Wow. De plus, on a regardé tous les films de la sélection officielle et on y assignait une note sur 5 pour les films.
C'est impressionnant. Donc le jury était composé de lycéens, c'est bien ça ?
Oui. Le prix des lycéens a été attribué à Rachid Ami et son film « Pour la France ». Ce film sortira le 15 février 2023 sur les écrans en France.
Ainsi, un film t'a-t-il plus marqué que les autres, Yasmine ?
Je dirais que tous les films ont marqué de manière différente, mais je dois en mentionner plus, quelques-uns, plus particulièrement. Pour la France de Rachid Ami, qui était vraiment un merveilleux film. Reste un peu de Gad Elmaleh. Le menu de Marc Milhaud et Le bleu de Caftan de Mariam Touzani. Mais vraiment, tous les films qui ont été proposés étaient incroyables.
On te croit.
Merci beaucoup Yasmine, cela donne vraiment envie. C'est maintenant la fin de l'émission. Nous reversions nos travailleurs de l'ombre, Vincent à la platine, nos reporters en studio.
Et notre invitée du jour, Madame Ferrand. Et ainsi que notre régisseuse, Yasmine. Chères auditrices et auditeurs, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même lieu, même fréquence.
À mercredi prochain.